Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café. Bondy Blog Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre de Radio Campus Orléans, dont le thème sera consacré, une fois de plus, à la transition. Cette émission a été enregistrée le samedi 26 octobre à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Bray. La ville organise régulièrement des rendez-vous et des rencontres autour de la transition. Nous nous étions intéressés en juin dernier à la transition financière et c'est sur l'éco-habitat, l'énergie que nous allons nous pencher aujourd'hui, plus précisément sur le thème de cette journée, dont le thème est « J'isole mon logement ». Avant toute chose, je me permets de vous présenter mes invités. Il y a Madame Brigitte Jallet, élue à la ville de Saint-Jean-de-Bray. Bonjour Madame.
Bonjour.
Il y a Flavie Renaud, elle est coordinatrice Ville en Transition au service aménagement et développement durable à la ville de Saint-Jean-de-Bray. Bonjour Flavie.
Bonjour.
Il y a Guillaume Beck, il est coordinateur de projet pour les compagnons bâtisseurs Centre Val-de-Loire.
Bonjour.
Il y a Aurore Guibou, conseillère info-énergie pour la DIL.
Bonjour.
Et enfin, il y a Denis Bulteau, qui est un habitant abrésien qui fait visiter son habitat.
C'est ça, bonjour.
Bonjour à vous. Nous allons au cours de cette émission vous expliquer les enjeux d'une bonne isolation pour l'habitat. Cette question est bien évidemment liée à la consommation d'énergie, dont les prix sont souvent en augmentation. Mais avant tout, je me tourne vers Brigitte Jallet. C'est quoi une ville en transition ?
Alors c'est vrai que c'est difficile d'expliquer exactement ce que c'est une ville en transition, mais l'idée c'est d'aider notre territoire à effectuer cette transition entre le monde d'avant, où le pétrole était abondant, où on ne se posait pas de questions, on consommait, et puis le monde de demain, où le pétrole va être rare, il va être cher, et où il faut qu'on lutte contre le changement climatique, qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, et donc qu'on consomme autrement, qu'on vive autrement. Et notre but en nous, en tant que ville et municipalité, c'est d'aider nos habitants et pour que tous ensemble, on effectue cette transition de la meilleure façon possible.
Quels sont les domaines de transition ?
Justement, la transition, ça touche à beaucoup de choses. Il y a la transition écologique, environnementale, mais il y a aussi la transition économique, puisqu'il va falloir un autre modèle, d'autres modèles économiques. La transition sociale, il ne faut pas l'oublier non plus. Tous nos comportements doivent évoluer. Ça peut concerner aussi le numérique, car on oublie que le numérique change complètement nos modes de faire, mais le numérique a aussi un impact important sur nos environnements. Donc, et la fracture numérique, il faut travailler là-dessus aussi. On a beaucoup parlé aussi à tout ce qui concerne notre alimentation. Il y a le jardinage, il y a la nature, voilà. Donc la transition touche à tous les domaines, puisque ça nous concerne, ça concerne tout le monde, dans tous les moments de la vie.
Quelles sont les actions mises en place par la ville ?
Alors, pour pouvoir travailler sur la transition, on ne peut pas le faire seul. Alors, la ville, bien entendu, travaille en interne, et notamment Flavie travaille beaucoup à ça, pour faire évoluer les pratiques des agents et pour essayer de mettre en place un certain nombre d'actions exemplaires. Mais pour vraiment être une ville en transition, il faut que tous les habitants puissent évoluer et chaque petit geste de chacun contribue à cette transition. Donc on a essayé de mettre en place depuis 2 ans, depuis janvier 2018, le moment où on a lancé cette démarche, on a mis en place un certain nombre d'événements qui petit à petit justement permettent de balayer tous ces domaines très variés dont j'ai parlé. Donc on a fait une soirée sur le jardinage au naturel, sur la permaculture, on a fait une soirée sur les finances solidaires, on en a fait une sur les énergies renouvelables, on en a fait aussi sur la fracture numérique, enfin sur les logiciels libres. Voilà, on essaye d'aborder petit à petit un grand nombre de domaines. Et aujourd'hui, donc, on a voulu faire un événement sur comment finalement diminuer notre consommation d'énergie, promouvoir la sobriété énergétique et notamment en isolant les logements, puisque le chauffage est l'un des modes de consommation qui consomme le plus d'énergie. Et c'est en diminuant cette consommation qu'on va d'une part économiser de l'argent, mais économiser de l'énergie. Et on va faire beaucoup de bien à la planète et on va diminuer aussi nos émissions de gaz à effet de serre.
Alors je me tourne à présent vers Flavie Renaud, qui est coordinatrice ville en transition au service aménagement et développement durable à la ville de Saint-Jean-de-Bray. Quelles sont les actions que, pour compléter les propos de Madame Jaillet, que vous mettez en place, tout simplement?
Mon rôle à la mairie est vraiment particulier. L'idée, c'est de faire le lien entre les différents acteurs motivés par la transition, ou ceux qui sont déjà convaincus, ou bien ceux qui restent à convaincre. Il ne faut pas les laisser de côté. Donc, mon rôle, ça va vraiment être de faire le lien entre les associations, les entreprises, les habitants ou les collectifs d'habitants, et les services de la ville ou d'autres services partenaires, des partenaires institutionnels, etc. Et de mobiliser les gens, de faire en sorte que les énergies puissent être plus, enfin se développent en co-construction, donc sur un mode participatif. L'idée, c'est vraiment que tous ensemble, on agisse les uns avec les autres, les uns en soutien des autres, pour faire évoluer des thématiques qui sont très vastes. Hein. C'est un champ, voilà, on l'a dit, un champ très, très diversifié. Et donc, dans mes missions, l'idée, c'est d'organiser donc des événements de sensibilisation, d'informer aussi et d'aider les agents ou les associations locales à être un petit peu plus actives dans le sens de la transition. Et puis, une des grosses parts de mes missions, c'est également de gérer le budget participatif, qui est un outil très important de la transition, puisque, en fait, on est dans vraiment un outil participatif pur. Budget participatif, comme son nom l'indique. Donc, c'est l'idée d'avoir une partie du budget de la ville. Alors, nous, en l'occurrence, c'est 200 000 euros qui sont mis de côté pour ça. Et qui est, en fait, à disposition, entre guillemets, des habitants. C'est-à-dire que c'est les habitants qui décident de ce que l'on fait de ces 200 000 euros pour faire avancer la transition. Alors, habitants au sens large, puisque il n'y a pas de critère d'âge, donc même les enfants peuvent déposer des idées et voter. Même les non-abrésiens peuvent aussi se sentir concernés parce qu'ils viennent travailler là ou parce qu'ils viennent se balader ou faire des loisirs. Donc, c'est très large, c'est très ouvert et chacun peut apporter une idée. Ensuite, cette idée, elle est soumise à un comité de suivi qui en vérifie la faisabilité, enfin voilà, qui fait attention un petit peu à ce que ce soit aussi dans les critères de la ville en transition. Et ensuite, c'est ouvert au vote. Donc, c'est la population qui choisit ensuite les projets qui vont être réalisés. Donc là, on a déjà une première édition en 2019 qui a qui a élu 13 projets. Les habitants ont voté pour 13 projets à hauteur de 200 000 euros qui vont être réalisés là dans les mois qui viennent. Et on vient de lancer la deuxième édition. Donc là, jusqu'au 20 décembre, tous les habitants peuvent déposer leur idée pour un territoire plus agréable, plus respectueux de l'environnement, plus solidaire. Voilà, donc ça fait vraiment fourmiller les idées. Les gens qui déposent des idées peuvent aussi s'inspirer des autres. Ou alors, à l'inverse, quand on dépose une idée, on peut se dire « Ah tiens, il y a déjà ça, ça, ça. Ah bah, du coup, je vais essayer d'être un peu complémentaire. » Donc, c'est créatif et c'est participatif. Donc, c'est une dynamique qui est très, très précieuse aussi pour la ville en transition.
Concernant cet événement que vous avez mis en place aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est vous-même ou Brigitte Jallet qui va y répondre, à qui s'adresse cette journée? Par exemple, je vais vous donner un exemple assez concret. Je suis père de famille, j'habite en HLM, j'ai 3 enfants. Voilà. Est-ce que je suis concerné par le sujet?
A priori, si vous habitez en HLM, vous êtes locataire justement d'un bailleur social, et les bailleurs sociaux, ce sont eux qui s'occupent d'isoler les logements. Donc je ne pense pas que ce soit la population la plus directement concernée par la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a cherché à toucher beaucoup plus les propriétaires occupants, que ce soit de maisons individuelles, de pavillons, ou bien dans les copropriétés. C'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'isoler quand on est en copropriété que lorsqu'on est dans une maison. Et ici, à Saint-Jean-de-Bray, on a un parc très important de maisons individuelles des années 70, où on sait que ce sont des maisons qui étaient à l'époque, la réglementation était encore très faible, donc il y a c'est très peu isolé, ce sont des passoires thermiques. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens à Saint-Jean-de-Bray qui sont concernés. Et on voulait donner de l'information pour dire aux gens, vous pouvez le faire. On sait que c'est compliqué, que ça coûte cher, mais donc il y a des associations qui sont là pour vous conseiller, dont c'est le métier, qui peuvent vous donner des conseils techniques, des conseils financiers et vous aider à monter justement vos dossiers pour pouvoir arriver à isoler vos logements.
Alors, l'isolation, par où ça commence ? On commence par où ? Aurore Guibou, comment faire, puisque vous êtes conseillère info-énergie auprès de la DIL, faut bien un début, hop, je suis venue à cette journée, par où on commence ?
Alors, en termes d'isolation, effectivement, on va d'abord regarder au niveau de l'enveloppe quelles sont les parois les plus déperditives du logement. Sur une maison, justement, des années 60-70, qui n'aurait pas...
Les parois les plus déperditives, est-ce que vous pourriez un peu expliquer ?
Alors, en fait, on va regarder au niveau de la maison. Donc, globalement, on a plusieurs types de parois. On va avoir la toiture, on va avoir les murs, on va avoir ce qu'on appelle également le plancher bas, donc c'est-à-dire le plancher entre le premier niveau chauffé et ce qui est en dessous. Donc ça peut être le terre-plein, le vide sanitaire, le sous-sol, enfin voilà. Et on va avoir tout ce qui est menuiserie. C'est ce qui va constituer l'enveloppe du logement. Et donc l'idée, c'est d'avoir une idée un petit peu de comment se situe le logement d'un point de vue isolation au niveau de ces différentes parois. On sait scientifiquement que sur une maison non isolée, la toiture est le premier poste de déperdition. C'est là où on va avoir le plus de déperdition. Là, c'est quand on est sur un logement des années 60-70, avant les premières réglementations thermiques qui ont imposé de l'isolation. On était sur un schéma type où le premier poste de déperdition, c'est la toiture et le deuxième, en général, c'est les murs. Après, il y a des maisons qui ont déjà subi des éventuels travaux d'isolation. Il peut y avoir eu dans les années 80, 90, 2000. En tout cas, il peut y avoir des postes qui ont déjà été rénovés entre la construction de la maison et aujourd'hui. Donc l'idée, ça va être un peu d'analyser quels sont les postes qui ont déjà subi des travaux et qui sont déjà peut-être plus performants qu'à l'origine, voire au niveau des normes actuelles. Quels sont les postes, au contraire, où il n'y a rien eu de fait, sur lesquels on pourrait éventuellement intervenir. Et puis, donc, du coup, après, quel serait le gain énergétique qu'on peut avoir poste par poste ? Quels sont les leviers d'action ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et surtout, qu'est-ce qu'on va gagner en face ? Puisque, du coup, les gens qui viennent nous voir, qui viennent prendre conseil auprès de nos services, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est, moi, je vais investir X milliers d'euros, par exemple, pour faire de l'isolation des murs, mais derrière... Qu'est-ce que je vais y gagner ? Combien d'euros je vais économiser sur mes factures ? Qu'est-ce que ça va me donner concrètement au niveau de mon logement ?
Mais oui, effectivement, qu'est-ce que je vais y gagner ? Des euros peut-être ?
Alors, en général, quand on rénove un logement, la plupart du temps, effectivement, ce que recherchent les personnes qui viennent nous voir, c'est avant tout un gain économique. Donc c'est des euros, clairement, gagner des euros sur leur facture. Et également un gain de confort. On a beaucoup de personnes qui viennent, qui habitent dans un logement où elles ne se sentent pas confortables. Il y a cette sensation de froid ou en tout cas de pas réussir à chauffer comme on voudrait. Donc c'est aussi le deuxième vecteur qui font que les gens, en général, s'intéressent à rénover leur logement. Il peut y avoir, ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut être amené à étudier la rénovation énergétique des logements. Il peut y avoir aussi une réflexion vis-à-vis notamment de la valeur verte du logement. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, mon logement, par exemple, il perd de la valeur. Si demain, je devais le vendre, je le vendrais moins cher parce que il est moins attractif d'un point de vue énergétique que peut-être la maison du voisin. Donc, du coup, comment je peux faire pour valoriser mon logement de manière à ne pas perdre à la revente par rapport au prix que j'ai payé à l'investissement ou en tout cas pouvoir le louer dans le cadre d'un propriétaire bailleur éventuellement, aussi bien que le voisin où du coup les charges sont beaucoup plus faibles par exemple parce que le logement est déjà isolé. Et puis il y a le dernier aspect qui est très important mais qui vient seulement dernièrement dans les débats, c'est vraiment le côté préservation de la planète et protection de l'environnement, puisqu'effectivement, quand on va isoler son logement, on va réduire ses besoins en termes de chauffage. Donc, qui dit moins de besoins, dit moins de consommation et donc moins d'émissions de CO2 ou d'autres gaz équivalents qui viennent polluer du coup aujourd'hui l'air qu'on respire. Voilà.
Alors, les personnes auxquelles vous vous adressez auront compris le gain économique, de confort, la valeur verte et de préservation de l'environnement qu'elles peuvent faire. Elles sont décidées. Quels sont les outils de mesure que vous proposez pour justement ces fameuses déperditions ?
Alors, il y a plusieurs choses. Alors, nous, on a mis en place là, depuis cette année, le prêt d'une mallette, ce qu'on appelle la mallette éco-mesure. Donc, c'est un prêt gratuit. C'est une petite mallette avec des équipements de mesure à l'intérieur qu'on prête aux particuliers qui le souhaitent pour une quinzaine de jours. L'idée, c'est que le particulier puisse faire un autodiagnostic de son logement. Et vis-à-vis, donc, justement, des travaux d'isolation, au sein de cette mallette, on a principalement trois équipements qui sont intéressants. Donc, on a déjà ce qu'on appelle des pastilles de température. Donc, c'est des petites pastilles qu'on va pouvoir placer dans des endroits stratégiques de la maison pour mesurer, avec un pas de temps régulier tous les quarts d'heure, l'évolution de la température pour voir, bah, par exemple, comment va se comporter peut-être une pièce qui va être bien orientée, qui va être au sud, qui va bénéficier des apports solaires en hiver par rapport à une pièce qui va être au nord, qui va pas bénéficier de ces apports solaires. En tout cas, pouvoir comparer, voilà, différentes pièces de la maison pour voir le comportement vis-à-vis de la température. On a également un petit boîtier qu'on appelle un CO2-mètre qui va mesurer à la fois donc, les émissions de CO2 dans le logement et le taux d'humidité dans le logement. Donc là, c'est plutôt pour analyser, on va dire, la bonne ventilation du logement, puisque souvent, quand on fait des travaux de rénovation énergétique, on n'y pense pas forcément, mais on va venir donc, isoler la boîte, l'enveloppe, et derrière, on va se retrouver dans une boîte qui étouffe, qui n'arrive plus à respirer parce qu'on n'a pas forcément anticipé les problèmes de ventilation. Donc voilà, la question de la ventilation, elle est vraiment importante. Quand on vit dans un logement, on émet y a des polluants par les produits qu'on utilise, par les meubles, enfin le mobilier, etc. Il y a des polluants qui sont émis. Nous-mêmes, en respirant, en cuisinant, en se douchant, on émet aussi de l'humidité. Et ben voilà, toutes ces particules d'humidité, de pollution, il faut bien à un moment donné réussir à les évacuer et repartir sur de l'air neuf, de manière à ce que l'air soit sain à la fois pour l'humain et à la fois pour le logement également, qui n'a pas besoin d'une air polluée. Et donc, du coup, cette question de la ventilation, grâce à ce petit boîtier qui est dans la mallette, on va pouvoir vérifier que le logement est bien ventilé, que le taux d'humidité reste dans des normes normales et que le taux d'émission de CO2, c'est pareil, ne dépasse pas des seuils d'inconfort vis-à-vis de ces émissions. Et le troisième petit équipement qu'on a dans la mallette en lien avec l'isolation, c'est un petit thermomètre laser pointeur où on va pouvoir mesurer à un endroit voulu la température d'une paroi. L'idée, c'est de pouvoir se rendre compte si la paroi est à la même température que l'air du logement, puisque souvent, en fait, quand on a un inconfort dans le logement, c'est parce que la paroi reste froide. On a beau chauffer à 20-21 degrés, on peut avoir une sensation de froid dans le logement. Si la paroi, le mur ou la menuiserie émet un rayonnement froid, le corps humain, lui, va ressentir globalement la moyenne entre la température de l'air et la température de la paroi. Et donc, du coup, grâce à cet outil qui permet de mesurer la température de la paroi, on peut savoir si cet inconfort, il est vraiment scientifique, avéré, si ça est lié à la paroi qui est pas bien isolée, qui est froide, ou est-ce que c'est plus une question de ressenti? Et après, effectivement, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins frileuses et qui ont plus ou moins besoin d'avoir chaud dans leur logement en fonction de l'activité également.
Alors, cette mallette, elle est gratuite. Le citoyen en transition donc a compris justement les différents gains économiques de confort, valeur verte, préservation de l'environnement qu'il pouvait faire. Il a fait le diagnostic, il est temps de passer à l'action. La question du financement, d'ailleurs ça faisait partie des tables rondes qui avaient lieu cet après-midi ici même à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Bray. Donc il y avait plusieurs thématiques, notamment le financement. Comment est-ce que l'ADI, l'espace Info Énergie, peut accompagner le citoyen en transition dans cette phase de financement, d'isolation de son habitat, de son logement?
Alors, on va effectivement recevoir les personnes qui le souhaitent en rendez-vous, ou en tout cas, on peut les renseigner par téléphone si elles peuvent pas se déplacer en rendez-vous, en fonction de leur situation, si elles sont locataires, propriétaires, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, de leurs ressources. On va leur expliquer les différents dispositifs d'aide financière qui existent. Donc l'ADIL ne donne pas d'aide financière. Nous, on est bien un organisme de conseil. Par contre, on connaît tous les dispositifs d'aide financière gouvernementaux ou locaux qui existent. Et on va pouvoir renvoyer en fait, les personnes vers les différents organismes en fonction de leur situation individuelle. L'idée, c'est on va pouvoir les accompagner pour le montage des dossiers. Donc pour des personnes qui seraient éventuellement éligibles à l'ANA, donc c'est l'Agence nationale de l'habitat qui donne des aides pour des personnes sous des certains plafonds de ressources. On va les réorienter donc pour le dossier ANA vers donc les opérateurs de l'ANA, donc notamment l'association Solia dans le Loiret qui va les accompagner pour le montage de leur dossier. Pour des personnes qui ne sont pas éligibles à l'ANA mais qui vont plutôt pouvoir bénéficier d'aides gouvernementales comme les primes énergie, donc les certificats d'économie d'énergie ou le crédit d'impôt qui est amené à évoluer en 2020 en prime rénov, a priori c'est le nom qu'on va lui donner. On va pouvoir aussi leur expliquer comment fonctionnent les dispositifs. quels sont les montants théoriques sur la base de devis, s'ils viennent avec des devis dont ils vont pouvoir bénéficier, et quelles seront les démarches administratives qu'ils vont devoir faire, dans quel ordre, pour être sûr que, voilà, que tout soit fait correctement et qu'ils ne passent pas à côté d'une éventuelle aide par méconnaissance, en fait. L'idée, voilà, c'est vraiment d'être accompagné et de ne louper aucun dispositif d'aide qui pourrait aider à se lancer dans ce projet de rénovation énergétique. Et l'accompagnement technique aussi, hein, parce qu'on parle de financement, mais voilà, l'idée, c'est de pas se lancer dans des travaux qui n'auraient pas forcément d'intérêt par rapport au logement. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, on va vraiment regarder au niveau du logement. On a de plus en plus aujourd'hui, là, on parle beaucoup d'isolation, mais on a beaucoup de ménages qui viennent nous voir. Quand ils parlent de rénovation énergétique, ils pensent changement de système de chauffage. C'est encore beaucoup ancré dans les esprits. C'est un peu dommage d'aller changer un système de chauffage sur une maison qui est une vraie épave thermique et qui va, du coup, bah, chauffer les petits oiseaux, hein, pour ainsi dire. Donc, on va vraiment essayer d'orienter le ménage de manière à ce que, bah, d'abord, il fasse des économies sur ses besoins de chauffage, hein. Comme je le dis régulièrement en rendez-vous, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc, si on arrive d'abord à réduire ses besoins de chauffage, eh ben déjà, on va faire des économies sans forcément avoir besoin de changer sa chaudière qui peut-être n'a que 10, 12 ans et qui n'est pas forcément le poste prioritaire parce qu'elle peut encore durer 10 ou 15 ans et que, ben, même en la changeant, on va peut-être faire effectivement quelques économies de l'ordre de 4, 5 %, mais on n'en fera pas autant que si on n'intervient pas sur vraiment l'enveloppe du bâtiment qui va amener à réduire ses besoins de chauffage. Donc, on est vraiment là aussi pour essayer en tout cas d'accompagner les ménages de manière à ce qu'ils choisissent les postes de travaux qui sont les plus cohérents par rapport à leur situation et si possible de faire les travaux dans le bon ordre.
Merci Aurore Guibou, vous restez avec nous de toute façon. Je me tourne à présent vers Guillaume Beck, qui est coordinateur de projet au Compagnon Bâtisseur Centre Val-de-Loire. Est-ce que en quelques mots vous pourriez nous expliquer les objectifs de cette association?
Donc les Compagnons Bâtisseurs, C'est un mouvement national qui existe depuis une soixantaine d'années, en région centre depuis 35 ans à peu près, qui porte un projet en fait ce qu'on a appelé l'ARA, A-R-A, pour auto-réhabilitation accompagnée. L'idée, c'est d'apprendre aux gens à faire par eux-mêmes, c'est de faire travailler les gens, qu'ils soient acteurs de des travaux, des chantiers, qui s'approprient leur logement, par l'amélioration, par la rénovation, par la compréhension vraiment de comment fonctionne son logement, de son entretien, de son appropriation, sur cela. Donc l'idée, c'est vraiment que de remettre les logements en bon état avec les gens, mais c'est aussi un prétexte pour relancer les gens, de mettre sur une bonne dynamique, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la capacité à agir par soi-même, l'envie de travailler sur l'amélioration de son logement. Quoi.
Est-ce que cette dimension sociale s'inscrit dans une démarche de transition? Affichée ou non, je ne sais pas.
Elle est peut-être induite, oui. C'est une démarche de transition en fait, qui est plus qui est d'abord sociale avant d'être écologique, peut-être. Parce que le fait d'agir par soi-même, de la capacité à agir de chacun, le fait de faire ensemble, l'élan de la solidarité que ça induit, c'est aussi le travail sur l'individu, le travail sur soi-même et le travail sur la communauté, la vie ensemble, quoi.
Alors oui, quand vous en parlez, on parlerait presque d'éducation populaire. Est-ce que l'éducation populaire a un lien avec la transition?
Ah.
Alors vous pouvez répondre autour de cette table.
Évidemment, j'ai envie de dire.
Oui.
C'est sûr que là, nous, ce qu'on propose, ça rejoint l'éducation populaire, clairement. Mais c'est dans le domaine du technique, quoi. Mais c'est l'éducation populaire, l'idée que les gens apprennent tout au long de leur vie, de la part de leurs semblables, qui soient pas forcément reconnus professeurs ou ces choses-là, mais qu'on peut apprendre de tous à tout moment, quoi.
Voilà. Vous œuvrez dans le champ de la transition parce que vous contribuez au recyclage de certains matériaux dont se débarrassent beaucoup d'entreprises.
C'est vrai. Adossé à ce gros projet général d'auto-réhabilitation accompagnée, en région centre, on a développé un projet qu'on appelle Solibat, qui est physiquement basé à Saint-Pierre-des-Corps et dont le principe en fait est de récupérer des dons de matériaux de construction de la part des fabricants, des fournisseurs, des artisans. Comme on est reconnu d'intérêt général, on peut émettre un bon de défiscalisation qui va leur permettre des économies fiscales qui valent à 60% de la valeur du don. Et donc, du coup, nous, ces matériaux qu'on récupère, on les replace sur les chantiers chez les gens chez qui on intervient. Parce que le seul critère pour qu'on intervienne finalement chez les gens, c'est un critère de revenu. C'est comme on est une association, on reçoit des financements publics principalement, un peu de financement privé aussi. On s'adresse à des gens qui sont sous certains plafonds de revenus, donc les plafonds de revenus fixés par l'ANA, dont Aurore parlait à l'instant. Et donc du coup, pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale avec les artisans, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale non plus avec les marchands, les commerçants de matériaux. Et donc du coup, sur Solibat, ces matériaux qu'on reçoit, on les rétrocède à ces bénéficiaires qui sont sous ces critères de revenus-là. Donc qu'on intervienne dans le cadre d'un chantier chez eux pour les accompagner, ou même si ils sont sous ces plafonds de revenus, ils peuvent venir solliciter la plateforme via son site internet. Donc tous les matériaux qui sont sur la plateforme sont référencés sur le site internet. Et après, nous, on peut s'organiser, et s'ils peuvent aller les chercher, ou on peut les emmener sur Orléans, des fois, de façon groupée.
Oui, au lieu que ça finisse enfoui, parce que c'est souvent c'est le ça. Lot de toutes ces choses qu'on ne sait pas recycler, qui oui. finissent dans des sites d'enfouissement. Ce qui garantit d'ailleurs de très mauvaises surprises pour les générations à venir quand ils iront creuser, faire leur petite galerie pour jouer. Bref, on poursuit avec Denis Bulteau. Denis Bulteau, vous êtes un habitant abrésien et vous proposez la visite de votre logement. Alors, qu'est-ce que votre logement a de si spécifique pour que vous en ouvriez les portes à vos concitoyens ?
Eh bien, c'est un pavillon à l'origine qui était chauffé par des centrales nucléaires avec en tout électrique. Le pavillon a 28 ans, il était aux normes de l'époque. Et il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai entrepris des travaux de rénovation. Ça a commencé par un chauffe-eau solaire, ça a commencé par renforcer l'isolation, par différents travaux comme ça. Et j'ai agrandi ce pavillon sur une surface de 50% à peu près en plus. Donc maintenant, j'ai un pavillon qui passe à 125 mètres carrés. Et cette extension a été réalisée en briques à joints minces, doublée d'un différents isolants naturels. Donc en doublant également les volumes, les épaisseurs, etc. Donc là où on en mettait 10 autrefois, j'en ai mis 20. Là où il y en avait 20, j'en ai mis 40. Tout ça en matériaux naturels, comme de la fibre de bois et de la ouate de cellulose. Si vous voulez, cette partie d'extension... On n'a presque pas besoin de la chauffer, en fait, puisque maintenant, elle est aux normes d'une maison, on va dire une maison basse consommation. Il y a besoin d'un apport quand même quand il fait très froid. Hein. J'ai appliqué, en fait, certaines règles de... notamment certaines propres... Pour comment dire, s'adapter à... En utilisant des matériaux à faible effusivité, c'est-à-dire que au lieu de laisser un mur avec une plaque de plâtre, on a recouvert les murs, on a préféré du lambris. Et plutôt que d'avoir un carrelage en grès, on a mis des parquets. Pourquoi ? Parce que quand la maison est chauffée à 18 degrés, vous pouvez facilement marcher pieds nus sur un parquet, mais pas sur du grès. Sur du carrelage en grès, c'est vraiment un inconfort. Donc la plupart du temps, il suffit d'ailleurs de mettre un tapis épais sur son carrelage pour corriger un peu ce phénomène. Ou de mettre des doubles rideaux épais à l'endroit des baies coulissantes. Et là, vous verrez tout de suite une amélioration du confort parce qu'il y a disparition de ce phénomène paroi froide.
Ben ça commence bien parce que là, on voit tout de suite le gain économique. Vous nous avez parlé du gain de confort. Donc, je rebondis sur les quatre critères dont nous parlait Aurore Guibout tout à l'heure, le gain économique, le gain de confort, valeur verte, préservation de l'environnement. Pourquoi avez-vous décidé justement de rénover votre logement en tenant compte de ces caractéristiques environnementales ?
Alors là, vous me posez une question existentielle.
Ah ben, ouais, excusez-moi.
Allez. Parce que je le sais vraiment. Oui, mais tout simplement parce que je suis sensible à tout ce qui est environnement, éco-habitat. Je trouve que la nature est faite d'une telle façon que on peut utiliser l'énergie qu'elle produit naturellement, le soleil en particulier. Hein. Et l'énergie, bah, c'est aussi la biomasse, hein, c'est aussi les matériaux naturels, la fibre de bois, la ouate de cellulose, par exemple, ce n'est pas un produit industriel, c'est un produit, comment dire, c'est ni plus ni moins utiliser les excédents que produit notre société. En l'occurrence, du papier qui est transformé en un isolant. Et je trouve que l'idée est très séduisante pour moi. Le chauffe-eau solaire, par exemple, c'est ça. J'ai un chauffe-eau solaire depuis une quinzaine d'années. C'est tout simplement la chaleur du soleil qui chauffe l'eau. Et moi, je suis très séduit par cette idée, sans faire appel à du pétrole qu'on va importer du Proche-Orient ou de l'uranium qui va produire de l'énergie, effectivement, mais qui va mettre des milliers d'années à se dégrader. C'est pour ces dimensions-là que je... Enfin, voilà.
D'accord. Donc, vous parlez de matériaux naturels. Alors, j'ai appris un mot aujourd'hui, et c'est Rore Guibou qui va vous en donner la définition. Je rappelle donc qu'elle est conseillère info-énergie. Puisque vous aviez sur votre stand une animation, voilà, vous proposez une animation où il fallait détecter les matériaux biosourcés. Et on vient d'en parler juste à l'instant. Qu'est-ce qu'un matériau biosourcé ?
Effectivement, on a. Alors, c'est une manière de créer en fait un échange et un débat. On a mis en place là sur notre stand aujourd'hui ce qu'on appelle des isolations à tâtons, un petit peu. L'idée, c'était en fait d'avoir 12 petites boîtes dans lesquelles on a caché 8 isolants biosourcés dont je vais reparler et 4 intrus et de sensibiliser du coup les personnes qui souhaitaient avoir des informations sur les isolants biosourcés. Le principe des isolants biosourcés, c'est vraiment de changer de modèle économique par rapport aux isolants plus traditionnels qui sont issus de la filière en général pétrolière et d'aller plutôt voilà sur des isolants qu'on va pouvoir récupérer naturellement en fait hein, issus tout simplement de la biologie donc on va récupérer j'évoquais tout à l'heure le bois, le chanvre et la paille pour les isolants qui sont peut-être les plus locaux en région Centre-Val de Loire, mais après on a d'autres filières qui sont moins répandues aujourd'hui chez nous mais qui vont peut-être être répandues dans d'autres régions donc tous les isolants qui sont issus de la filière avant tout végétale, donc là on va retrouver pas mal d'isolants et également de la filière animale. On va avoir notamment la laine de mouton, des choses comme ça, qui sont du coup des isolations qu'on peut facilement avoir, qui sont renouvelables et qui nécessitent beaucoup moins d'émissions pour les produire, d'eau pour leur fabrication et surtout qu'on sait recycler aujourd'hui en totalité sans avoir besoin d'enfouir, on en a parlé, ou éventuellement de les brûler en fin de vie. Donc voilà, on est vraiment sur un cycle vertueux de la fabrication au recyclage de ces matériaux, sans parler effectivement de l'impact de ces filières qui sont du coup la plupart du temps beaucoup plus locales puisqu'on n'a pas besoin de l'intervention du pétrole, on parlait tout de suite du Moyen-Orient ou d'autres gaz ou autres en Russie ou autres. On est vraiment sur des filières locales. La paille, aujourd'hui, on en a dans le Loiret, on en a en région centre. Pourquoi pas la faire venir de 5 km à côté de chez soi plutôt que d'aller chercher du polystyrène qui va être fabriqué dans une usine peut-être à l'autre bout du monde avec une consommation en pétrole énorme et une consommation en eau énorme pour fabriquer. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur des matériaux plus naturels qui, donc, du coup, ont un cycle de vie beaucoup plus vertueux et qui vont tout aussi bien isoler en fait la maison, même s'ils sont malheureusement aujourd'hui encore beaucoup méconnus du grand public.
Denis Bulteau, est-ce que vous vous retrouvez dans les 4 critères gain économique, gain de confort, gain valeur verte et préservation de l'environnement par rapport aux travaux que vous avez faits sur votre logement ? Est-ce que vous remplissez les 4 critères selon vous ?
Oui, très certainement. Disons que je ne les ai pas placés dans cet ordre. Les gains économiques, certainement, mais j'allais dire c'était un peu secondaire pour moi à l'origine. Les gains en confort, certainement. Oui, c'est une autre façon d'être, une autre façon d'être en relation. Ces travaux se sont déroulés sur plusieurs années et ça m'a mis en relation avec d'autres personnes qui étaient sensibles à tout ce qui est éco-habitat, préservation de l'environnement, énergie renouvelable. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Ça crée du lien entre les gens.
De quelle manière ? Expliquez-moi un petit peu.
Eh bien, il y a des réseaux alternatifs qui font peu de publicité, ne sont pas là pour faire du profit. Ces gens-là existent et je les ai rencontrés. Et je vous assure que ça s'est développé beaucoup ces 10-15 dernières années. Je trouve que... Ça permet vraiment d'améliorer sa qualité relationnelle, la qualité de ses relations. Parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas dans le paraître, qui ne sont pas vraiment dans le faire, sont plutôt dans l'être et plutôt dans l'authenticité. Et pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, c'est quelque chose de précieux.
Alors, sans forcément donner des noms de personnes, peut-être des noms d'associations ? au sein desquels ces personnes militent ?
Oui, je pense à Approche-Paille, par exemple, qui est toujours très actif. Eh bien, il y a différents réseaux autour d'Alternatiba, autour de la COP21. On les retrouve, c'est un peu les mêmes qu'on retrouve, hein, également par rapport à l'alimentation. L'alimentation, il y a des réseaux alternatifs. Donc, on est devenu plus ou moins militant de ces causes-là. Voilà.
Donc, vous êtes un citoyen en transition. On peut le dire.
En transition, oui. Hein, oui. Fier de
tout à l'heure, bah oui, parce que tout à l'heure, on parlait de questions existentielles. Ça y est, moi, je vous donne la réponse.
Merci. Ça me touche.
Vous m'avez l'air d'être un citoyen en transition. On avait parlé tout à l'heure déjà de l'aspect social, de l'aspect éducation populaire. Là, vous venez d'évoquer la qualité relationnelle, l'authenticité des rapports entre ces personnes qui fréquentent des associations telles que Alternatiba, la COP21 ou encore Approche-Paille, réunies autour de la même question de la préservation de l'environnement, j'imagine.
Bien sûr, bien sûr.
Vous-même, je ne sais pas, autour de cette table, Guillaume Beck, et la préservation de l'environnement.
La préservation de l'environnement...
Ça vous touche, ça vous concerne.
Évidemment.
De près, de loin, oui, de quelle manière?
Individuellement, c'est sûr que ça... On est tous concernés. Après, là, c'est... Au sens large, c'est un... Je pense que c'est un souci personnel qu'on a tous et qui est dans l'air du temps, quoi. Et puis après, au niveau des professionnels, c'est vrai que je pense que... Enfin, j'ai envie de dire que j'ai la chance de travailler dans une association qui apporte beaucoup de sens, finalement, dans ce qu'elle fait. La transition écologique, pour l'instant, dans le réseau des compagnies bâtisseurs, je reconnais qu'elle est secondaire. On travaille... Notre approche, elle est plus sociale. Mais je pense qu'après, moi, personnellement, la transition sociale, elle est indispensable à la transition écologique. Donc les deux doivent fonctionner ensemble, parce que les inégalités aujourd'hui sociales, elles se retrouvent en tant qu'inégalités écologiques. Et on essaye, autant que faire se peut, nous, dans nos chantiers, de mettre des matériaux biosourcés. Ça arrive trop rarement. Ça arrive sur 2-3 chantiers par an. C'est quelque chose qui est encore complexe parce que tout le monde a des habitudes de travail, nous-mêmes. On a la part facilité aussi. Et puis, des fois, les gens avec qui on travaille, le premier souci, c'est de se dépêcher de faire une isolation parce que ça devient dramatique ou quelque chose comme ça. Et on ne va pas avoir le réflexe. Mais c'est clairement pas avoir le réflexe. Et là, c'est notre tort. Mais après, il y a des contraintes financières aussi, ces choses-là. Donc,
Ne vous flagellez pas. Juste pour vous rattraper, le 7 novembre, de 14h30 à 17h, améliorer l'isolation murale de son logement. Voilà, c'est proposé par les compagnons bâtisseurs.
C'est vrai. On commence à mettre en place des animations sur l'agglomération d'Orléans. Là. Donc, on commence par le pôle ESS à Saint-Jean-de-Bray. On expérimente là 4 animations d'ici la fin de l'année. Et la première, voilà, c'est clairement apprendre aux gens à se dépatouiller avec un isolant, quel qu'il soit. Ils vont apprendre à bâtir une structure avec les outillages, une structure d'une cloison. Là, l'isoler en prenant en compte les passages de gaines techniques pour l'électricité, ces choses-là, ces différents aspects. Et puis un revêtement par-dessus. Donc je pense que ça va être quelque chose de très simple parce que l'idée, c'est pas finalement le matériau en tant que tel qui va compter. Là, c'est vraiment d'apprendre aux gens à se poser les bonnes questions, à manipuler les outils, à pouvoir les emprunter parce qu'on pourra leur prêter les outils avec l'outil tech qui sera mis en place au Pôle SS bientôt. Donc voilà. Je sais pas l'animateur qui fera Seb à ce moment-là. Je sais pas quel matériau il a prévu. Ça sera peut-être du très classique. Il aura peut-être sûrement un super rouleau de laine de roche avec un peu de rail métallique et de placo, mais peut-être pas. J'en sais rien. Mais voilà, le sens qu'il y a derrière, c'est vraiment d'apprendre à faire par soi-même, à s'approprier les matériaux, les outils, et à se poser les bonnes questions. Voilà.
Alors, j'ai pas oublié ma question, c'est quoi pour vous la transition? Mais on va demander à Denis Bulto, justement, concernant le faire par soi-même, est-ce qu'il en est passé par là? Mais on poursuit donc avec Aurore Guibou, la transition, pour vous. Alors, j'imagine que si vous travaillez au sein de la DIL et vous êtes conseillère Info Énergie, ça ne vous est pas étranger. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la transition?
Alors, effectivement, ça m'est pas du tout étrangère et j'ai la chance de pouvoir faire un métier qui partage mes valeurs. C'est déjà une très grande chance sur laquelle, voilà, je m'y reconnais, puisque du coup, aujourd'hui, voilà, je pour moi, c'est, enfin, effectivement, c'est personnel, mais c'est aussi professionnel, puisque du coup, en militant au quotidien de manière personnelle, je m'y retrouve au niveau professionnel, puisque c'est les mêmes valeurs que je défends. Après, on sait que c'est pas toujours évident. Chacun y va à la vitesse où il veut, où il peut, notamment vis-à-vis des personnes qui voilà, sont peut-être un petit peu déjà en marge de la société sur certains points, que ce soit économique ou même socialement un peu plus exclu, on va dire. En tout cas, voilà, à titre personnel, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je fais moi-même partie d'associations à titre personnel. Après, j'ai envie de dire, moi, personnellement, j'ai commencé par la partie isolation parce que c'est ce qui me touche le plus à titre personnel. J'ai aussi pas mal agi à titre personnel sur la partie gestion des déchets. Je parle principalement là de mes déchets alimentaires, notamment chez moi à mon domicile. Mais après, enfin, chacun va agir sur peut-être les postes qui l'intéressent le plus. Peut-être que pour certains, ce sera sur la mobilité où ce sera le plus facile d'agir. Peut-être que pour certains, ce sera effectivement sur la rénovation énergétique. Peut-être que pour d'autres, ce sera sur la gestion des déchets. Peut-être que pour d'autres, ce sera la gestion de l'alimentation, mieux se nourrir en autoproduction ou en tout cas en partie en autoproduction. Voilà, les chantiers sont vagues, ça c'est clair. On a beaucoup de travail et d'évolution intellectuelle à tous, et même d'évolution économique au niveau de nos sociétés à prendre en considération. Après, j'ai l'impression que depuis quelques mois ou en tout cas peut-être quelques années, il y a une réelle prise de conscience beaucoup plus collective, même si à mon sens elle est beaucoup trop lente. Mais en tout cas, voilà, on y va et voilà, j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à vraiment ne pas hésiter à se renseigner sur les thématiques qui les intéressent. Et même un petit pas, c'est toujours mieux que rien. Voilà, effectivement, on n'arrivera pas à révolutionner tout en un claquement de doigts. C'est pas toujours facile, mais on peut tous faire quelque chose à notre échelle et chaque petit pas que l'on fait les uns ou les autres, c'est toujours mieux que rien.
Merci. Denis Bulteau, c'est quoi pour vous la transition ?
Eh bien, la transition, c'est rester fidèle à un ensemble de valeurs. Je crois que la société de consommation et le productivisme ont beaucoup dévoyé plein de choses sous prétexte d'un meilleur confort, d'une meilleure qualité de vie, je ne sais pas. Personnellement, je trouve qu'on n'a pas besoin de tout ça et que les valeurs simples sont aussi les meilleures et celles qui perdureront dans le temps. Imaginez aujourd'hui 7,3 milliards d'habitants. Si les pays émergents se mettent à copier notre mode de consommation, où allons-nous ? La Terre n'y survivra pas, l'humanité n'y survivra pas. Donc, quelque part, sa valeur aussi d'enseignement par rapport aux générations futures. Montrer à nos enfants qu'on peut se passer de tout ça, que finalement, notre bien précieux, c'est la Terre héritée de nos ancêtres et celle qu'on va transmettre. Je crois que c'est à chacun de réfléchir aussi. Quels sont mes véritables besoins ? Est-ce que j'ai besoin de paraître plus beau, plus grand, avoir une voiture plus grosse que mon voisin ? Voilà, c'est aussi un travail de réflexion personnelle, quelque part. Mais sans doute que notre exemple est à valeur, comment dire, d'enseignement pour les gens. Ce sont des idées qui prospèrent, en fait, qui cheminent et qui vont prospérer, je pense, à l'échéance des temps futurs, enfin, d'une génération ou deux générations, pas plus.
Flavie Renaud, j'imagine, pareil, que tout comme Aurore Guibou, ce n'est pas par hasard si vous occupez ce poste de coordinatrice, notamment de responsable ville en transition pour la ville de Saint-Jean-de-Bray. C'est quoi pour vous la transition ?
Alors, c'est tellement de choses, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits là depuis le début de cette émission, et c'est très intéressant et très riche. Au fur et à mesure des échanges là qu'on a eus, moi en tête me venaient deux mots clés que je retiendrai par rapport à ce qu'est pour moi la transition. C'est réflexion. C'est déjà une prise de recul, c'est se poser des questions, on l'a dit plusieurs fois sur différents sujets. C'est déjà de faire un petit pas de côté et de se dire de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie, est-ce que ça c'est mieux que telle autre chose, etc. Donc ça c'est déjà la première démarche pour moi. Du coup, c'est quelque chose que moi j'essaye de développer au niveau personnel aussi évidemment et au niveau professionnel, d'amener que ce soit les collègues, les associations, les différents partenaires avec lesquels je travaille, à se poser des questions. Et on n'a pas toujours les réponses. Mais le plus important pour moi, c'est déjà d'avoir une prise de conscience et d'être dans une démarche d'évolution, de changer des pratiques. Voilà. Donc, qui dit question et réflexion dit ensuite, et c'est le deuxième mot-clé pour moi, pas forcément chercher une réponse toute faite, mais d'aller échanger. Pour moi, c'est l'échange, la rencontre. Donc on rejoint aussi toutes les questions liées au lien social, à la qualité du lien, etc. Et dans la rencontre, on peut trouver des réponses, ou pas. Mais en tout cas, on avance, on continue à cheminer et on s'apporte beaucoup mutuellement. On nourrit des réflexions, mais on nourrit aussi et on peut passer à l'action. En collectif, parce que voilà, tout seul dans notre coin, c'est bien et c'est important de le faire. On a tous des petits gestes, éco-gestes, des actions qu'on peut mener, et ça, c'est hyper important. Mais tous ensemble, quand on se met comme là autour d'une table ou cet après-midi de se réunir, d'aller à la rencontre du public, de se rencontrer entre nous, c'est très très précieux et ça permet d'aller plus loin. Voilà. Donc, on se pose des questions et après, on en discute ensemble. Déjà, on est sur des très, très bonnes bases pour amorcer une transition.
J'allais faire un jeu de mots. Alors, on devait parler isolation et on dit que l'isolement, c'est pas bon. Mais l'isolation, c'est bien, c'est nul. Bon, ça sera coupé au montage. Denis Bulteau, faire par soi-même. Est-ce que vous avez fait des choses par vous-même, justement, en rénovant votre logement ?
Partiellement. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, qui m'ont donné des conseils. J'ai payé aussi pour rémunérer une personne qui a fait des travaux. C'était quelqu'un en insertion, justement. J'en suis très heureux parce que ça rejoint les deux côtés de mon projet. Voilà. Mais on trouve toujours. Hein. Je pense qu'on trouve toujours.
D'accord. Par soi-même, tout seul, c'est pas possible. Il faut de l'aide. Donc, est-ce que les membres des associations dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, on fait preuve de solidarité ou dans votre entourage, les personnes qui bénévolement sont venues vous aider ?
Alors, il y a des réseaux alternatifs, bien sûr. Il y a notamment un système d'échange local sur l'agglomération. Enfin, il y en a plusieurs qui proposent des
donc ce qu'on appelle le CEL.
Oui, CEL, oui. Système d'échange local ou jardin d'échange universel. C'est à peu près les mêmes valeurs. Et vous rencontrez des gens qui sont, volontaires pour donner un coup de main, tout simplement.
Ben, très bien.
Tout simplement.
On a vu beaucoup de choses au cours de cette émission. Elle touche à sa fin. Je vous remercie. Je vais rappeler les coordonnées donc, des différentes associations présentes autour de cette table que vous pouvez contacter, notamment si vous voulez avoir un accompagnement pour un diagnostic, pour une aide au financement, enfin savoir vers qui vous tournez pour le financement. Enfin bref, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez contacter l'espace infoénergie à loiret@infoenergie-centre.org ou alors en les contactant sur un seul numéro, le 02 38 62 47 07. C'est bien ça. Vous pouvez également venir voir la prochaine intervention des compagnons bâtisseurs. Ce sera ici même à Saint-Jean-de-Bray, enfin, pas très loin, au 610 Paul ESS, 610 avenue François Rabelais. C'est Mathilde Charrier, l'animatrice Habitat, qui vous donnera plus de renseignements. Vous pouvez la contacter au 06 33 40 52 85. Et donc, le jeudi 7 novembre de 14h30 à 17h, améliorer l'isolation murale de son logement. Le 21 novembre de 16h30 à 19h, il y aura un quiz sur l'énergie. Le 5 décembre, la fabrication d'une lampe à poser. Et le 19 décembre, des réalisations de bougies naturelles parfumées. Les compagnons bâtisseurs que vous pouvez contacter en appelant Guillaume Beck, par exemple, sur son portable, ou on va plutôt donner l'email g.bec@compagnons-bâtisseurs, tout ça attaché, .eu, ou alors en les appelant au 02 47 61 32 10. On en a parlé en début de cette émission dans le cadre de la transition Saint-Jean-de-Bray en transition, une ville en transition. Il est mis en place un budget participatif et vous pourrez évidemment avoir plus d'informations sur le site www.saintjeandebraytoutattaché.fr ou en appelant, c'est peut-être Flavie Renaud qui décrochera d'ailleurs, le service aménagement développement durable au 02 38 52 41 49. Merci à vous. Je remercie également Jocelyn pour la technique. C'est lui qui a permis d'amplifier initier cette diffusion publique. En résumé, la transition, ce sont des valeurs simples, ce sont des valeurs humaines, en une alternative à la société de consommation et au productivisme. Il y a une dimension individuelle, une prise de conscience individuelle, un travail de réflexion personnelle, mais également une dimension collective avec une évolution intellectuelle et économique à prendre en considération, même si certains pensent que ça ne va pas assez vite, mais il faut garder l'espoir. Tous ensemble, on ira plus loin. Et voilà, ça permet également d'ailleurs d'améliorer la qualité relationnelle, l'authenticité des matériaux, puisqu'il s'agissait, on parlait de notre thème, c'était l'isolation, et bien il y a des matériaux qui sont biosourcés et qui sont une alternative très intéressante pour l'avenir de nos habitats et surtout des générations qui nous succéderont. Merci à Flavie Renaud, merci à Denis. Oh, je vais y arriver, vous êtes arrivé trop tard. Merci à Denis Bulto, merci à Aurore Guibou, merci à Guillaume Beck. Et à Madame Jallet également qui nous a quittés en cours d'émission. Merci à vous tous.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.
Rejoins la rédaction. 3W.